chers auditeurs de Radio MDM, dans l'émission « Leur histoire est aussi notre histoire ». Alors, durant les 4 ou 5 dernières émissions, je vous ai parlé de Mont-de-Marsan, notamment de sa fondation, de la façon dont la ville s'est agrandie, dont elle a développé ses principaux quartiers historiques, bien entendu. Mais aussi, je vous ai parlé de quelques monuments repères, les monuments les plus importants, comme par exemple le Château Vieux, siège du vicomte, et puis ensuite le château de Nolibos, ainsi que la mairie en face du Château Vieux, tout cela au confluent, et enfin les moulins. Alors, aujourd'hui, pour clore ce petit chapitre sur la ville de Mont-de-Marsan, que je reprendrai l'année prochaine. Donc pour clore ce petit chapitre, je vais évoquer un petit peu l'histoire du Marsan au XIIIe siècle et la façon dont le paysage du Marsan s'est mis en place, la façon aussi dont le Marsan était organisé par ses vicomtes, et vous allez voir qu'il y a effectivement beaucoup de choses à dire. Et tout d'abord, la première chose à préciser, c'est que nous arrivons donc maintenant au XIIIe siècle. Que le XIIIe siècle, c'est un tournant, c'est une transition entre les siècles précédents et la fin du Moyen-Âge. Alors, siècle de transition, je vais m'expliquer, c'est-à-dire qu'au XIIIe siècle apparaissent à peu près mis en place les grands repères qui vont vraiment organiser tout le paysage du Marsan, celui qu'ont connu notamment vos ancêtres, jusque, je dirais, au début du XXe siècle, qui est encore conservé dans ses principaux cadres, même s'il y a eu évidemment des petits changements, ça va de soi. Alors, pourquoi transition ? Transition lente quand même, hein, parce que finalement, les évolutions ne se font pas du jour au lendemain. Elles ne se font pas en quelques dizaines d'années, normalement. Les évolutions résultent de transformations très lentes. Les évolutions résultent de transformations lentes qui se font sur la longue durée, ainsi que l'expliquait le grand historien Fernand Braudel. Et effectivement, là, on peut dire que les siècles précédents, le XIIIe, c'est-à-dire le Xe, le XIe, le XIIe, tout doucement, ont connu des changements imperceptibles qui, accumulés, joints les uns aux autres, vont finir par donner un paysage, une société, une économie, des pouvoirs politiques tout à fait différents, effectivement, de ce qu'on a pu connaître au début, à l'origine de la vicomté de Marsan. Le paysage dont nous avons hérité aujourd'hui est quand même en place dans ses grandes lignes. Alors, il ne l'est pas totalement au XIIIe siècle, dans la mesure où ce qui va modifier un petit peu la situation, c'est la création des bastides. Les bastides, ces villes nouvelles qui vont fleurir entre le milieu du XIIIe siècle et le milieu du XIVe. Elles ne sont pas encore fondées, mais enfin quand même, un certain nombre vont l'être dans les Landes entre le milieu et la fin du XIIIe siècle. Mais nous reparlerons des bastides plus tard. Néanmoins, les repères principaux qui vont rythmer le paysage, ce paysage que vous connaissez, eh bien, ces repères principaux sont là. Tout d'abord, car l'église demeure le point de repère principal du paysage dans l'ensemble des régions, que ce soit de France, d'Italie, d'Espagne, d'Allemagne, de Grande-Bretagne, les églises ont peu à peu effectivement fixé des paroisses. Or, en Marsan, eh bien, il y a 122 églises et chapelles. 122, c'est un chiffre considérable. Alors évidemment, aujourd'hui, un certain nombre de ces églises ont disparu, car en fait, elles étaient le centre d'une paroisse, et qu'à la Révolution, souvent, un certain nombre de ces paroisses ont été réunies en une seule commune, et je vous donnerai tout à l'heure deux exemples qui sont tout à fait parlants. L'exemple du Frêche, village du nord-est du Marsan, et l'exemple de Saint-Justin également dans le nord-est du Marsan. Donc, 122 églises et paroisses, donc, avec leur cimetière qui va se fixer autour de l'église, tout près de l'église, ce qui n'a pas toujours été le cas, notamment jusqu'au début du XIe siècle. Second repère dans le paysage, c'est l'habitat seigneurial. Alors, le château ou la maison forte. Malheureusement, en Marsan, nous avons très peu de vestiges de châteaux. En effet, les châteaux des seigneurs du Marsan n'étaient pas de grandes fortifications de type château fort en pierre, étant donné que le Marsan n'a pas beaucoup de ressources en pierre, à part la pierre coquillère qui se trouve notamment aux environs de Mont-de-Marsan. Donc, nous avons peu de ces vestiges. Et souvent, c'était d'ailleurs des châteaux modestes. Alors, plutôt que château, moi, je préférerais le terme de maison forte, qui correspond davantage à ce qu'étaient ces seigneurs, c'est-à-dire souvent de petits seigneurs qui n'étaient pas forcément très riches. Donc, il ne faut pas voir dans les seigneurs du Marsan des personnages qui vivaient sur un grand pied. Hein. Il s'agissait souvent de seigneurs modestes et même, dans certains cas, certains étaient pauvres. Mais en revanche, nous avons conservé à travers l'ensemble du Marsan et bien au-delà du Marsan d'ailleurs, un certain nombre de mottes, alors des mottes castrales. Alors la motte castrale, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est une élévation de terre qui peut atteindre 8 à 10 mètres de hauteur et qui est entourée d'un fossé et d'une palissade. Alors en général, la motte supporte souvent l'habitat du seigneur, mais ce n'est pas toujours le cas. On en a d'ailleurs un exemple tout à fait caractéristique. Si l'on va à La Brite et que l'on veut visiter le site du château de La Brite, là, eh bien, la maison seigneuriale se trouve dans la basse-cour, c'est-à-dire le secteur plan, hein, le secteur tout à fait plat qui est entouré aussi d'un grand fossé. Et la motte sert uniquement à porter une tour de surveillance. Alors, toutes les mottes n'ont pas effectivement porté donc d'habitat seigneurial, mais on en connaît quand même un peu. L'exemple, je pense, le plus frappant, c'est celui du château d'Aon à Ontanx, qui a été conservé donc sur sa motte, bien qu'il y ait eu des remaniements apportés à ce château, car s'il y a une partie qui est du XIVe siècle, une autre partie lui a été adjointe certainement au XVIIe, je pense, au moins. Donc par ailleurs, on ne connaît pas l'allure de la motte au Moyen-Âge, mais il est fort probable qu'elle était entourée de fossés qui ont aujourd'hui disparu. Alors ces mottes ne sont pas forcément connues de tous, hein, car non seulement bon, certaines ont disparu avec l'avancée, le développement de l'agriculture, hein, mais d'autres se trouvent aujourd'hui au fond des bois, dans la forêt landaise. Hein. En revanche, quelques-unes sont encore tout à fait connues. Je pense notamment à un ensemble avec mottes qui se trouve à Artassinx, derrière l'église, et qui s'appelait la Mouta. Alors, ces mottes ont souvent porté effectivement des noms tout à fait révélateurs, tout à fait caractéristiques, comme par exemple Castaillon. À Sarbazan. Alors, Castaillon, ça vient de Castet, ça veut dire le petit château. Voilà. Nous avons donc, j'ai cité la Mouta d'Artassinx, mais quelquefois il y a de très jolis noms, comme notamment le camp du Gaulois à Perquis, par exemple, ou bien encore Lou Castet d'Oupine à Sainte-Foy, par exemple. Et puis, parfois, le camp romain à la rivière. Alors, le camp romain, ça n'a rien de romain, Némotte, hein, mais ce surnom a été donné notamment jusqu'au XIXe siècle, même parfois au début du XXe, par un ensemble de mottes qui se trouvent tout à fait au sommet du coteau qui domine la Dour à la rivière. Voilà. L'ensemble de ces mottes n'a pas porté toujours d'habitat seigneurial, mais il y en a eu quand même un certain nombre, et en particulier certains, comme notamment, je vous ai cité Ontanx, mais aussi le château d'Agos à Bougues, qui est aujourd'hui totalement en ruine, ou bien par exemple le château du Lot, qui certes est un magnifique château de la fin du XVe siècle, mais qui a succédé à une motte autrefois installée derrière le château, mais qui a aujourd'hui disparu. Alors il y existe évidemment encore d'autres repères, hein. J'ai cité les églises, j'ai cité l'habitat seigneurial, mais il y a eu aussi pendant des siècles les moulins. Les moulins ont joué un rôle extrêmement important dans la vie des populations et dans la vie des villages. Étant donné que le Marsan est très riche en rivières et en ruisseaux, ainsi nous avons la Douze, le Midou, qui se rejoignent pour former la Midouze, donc toutes ces rivières ont elles-mêmes des affluents et les affluents eux-mêmes des petits ruisseaux affluents. Et on peut dire que pratiquement sur chaque ruisseau affluent était installé un moulin à eau qui fonctionnait en général avec un bras de dérivation qui retenait donc une retenue d'eau qui faisait tourner la meule du moulin. Allez, on va faire une petite pause et je vous propose un très beau chant composé par le troubadour Marc Abru, L'Autrière Jostuna Sebissa, qui est interprété par l'ensemble Micrologus.
L'Autrière Jostuna Sebissa, trobe pastura mestissa, de gioie de se massissa, e fon figlia de vilaina. Cappe gonnella pellissa, veste camisa treslissa, sot l'arse causas de laina. Vesliis vau per la planissa, Cosa filio refaitissa, dolai grandel vencius fissa, senie sudis la vilaina. Merce deue manoi visa, paucmo presil vens merisa, calle greta soie saina. Tusa filio, causa pia, destruz me sui de la via, per far a vos compagnia, carai tal tusa vilaina, nun pot s'espare il paria, pastor giar tanta bestia, en ai tal loc tan soldaina. Don faisela, Chi che sia, ben conosc senno follia, la vostra pareglia è via, segne sodis la vilaina. Laion se tagne si sestia, che tals la cugen bailia, tener non ha mai slufaina. Osare gentila faire, cavaliers fu vostre paire, che usengenret e la maire, tan fun cortisa vilaina. Compus vus gart mes bellaire, e pel vostre gioi mesclaire, si fossets un paucumaina. Senier, mon geni, mon aire, ve revertire retraire, al vesuce, all'aire, senier, sudiz la vilaina. Maestal se fai cavalgaire, catre tal deria faire, los seis giorns de la semaina. Tusa, filio, Gentil fada, vos ad astre campus nada, d'una beutate smerada, sobri tutta otra vilaina. E seri auspe doblada, sin vesi una vegada, sobiran e vos sotraina. Senier, tan m'avets lausada, pus en prez m'avets levada, car vostro amor tan m'agrada, senier, sudis la vilaina. Per tal nauret per soldada, al partir bara folvada, e la musa meliaina. Tusa, fel cori salvage, ad omes giumper usace, ben conusc altres passage, capai tal tusa vilaina. Potum farri companace, ar amistate corace, candis l'altre non engiaina. Don omcociati pollace, eus prometeus pleviscace, sin fariazzo manace, senier sudis la vilaina. Maisces per un poc d'intrace, non vuoi il mondes più sellace, cam già per non de putaina. Tusa, tutta creatura, revert segun sa natura, parlem a parola pura, fimiu toseta vilaina. A l'abri clonc la pastura, che mels ne sta et segura, per far la causa d'ossaina. Don hoc, ma segund recira, cerca falsa folatura, cortes, cortes aventura, el vi lassa la vilaina. E mans lox fai so fraitura, che noi es gardo mesura, so dis la gens anciana. Bella de vostra figura, non vi altra pus ta fura, ni de sun corpus tre faina.
Me revoilà dans l'émission « Leur histoire, c'est aussi notre histoire ». Et dans le second volet, où je vais aborder les modifications de l'habitat au cours du XIIIe siècle. Dans le premier volet, nous avons vu les transformations progressives du paysage. Et là, eh bien, parlons un petit peu des modifications de l'habitat. Alors, en particulier en Gascogne, nous sommes dans un pays d'habitat très dispersé. Au Moyen Âge, et certainement dans l'Antiquité aussi, cet habitat était encore beaucoup plus dispersé qu'il ne l'a été, par exemple, au XIXe siècle, voire dans la première moitié du XXe siècle. Parce que c'est souvent la nature du sol qui induit aussi l'installation d'une exploitation. Bon, les terres n'étant pas toujours aussi fertiles les unes que les autres, on s'installe finalement là où les terres l'exigent. Néanmoins, c'est au cours du Moyen Âge que la grande majorité des villages de notre région du Marsan est née. Les villages que nous connaissons, en tout cas, même les petites villes, les petites villes du Marsan, sont nées essentiellement à partir du 11e siècle, peut-être un tout petit peu avant, mais là on n'en a pas de preuves. En Marsan, nous n'avons pas l'équivalent, par exemple, de la région d'Acquaz. Nous n'avons pas une grande ville gallo-romaine comme Dax. Aire sur l'Adour, est une ville antique, effectivement, mais c'est quand même une ville beaucoup moins importante, beaucoup plus petite dans l'Antiquité que Dax. Et elle n'est pas centrale, comme par exemple dans la région d'Acquaz. Dax a véritablement organisé l'ensemble de son territoire. Nous n'avons pas l'équivalent en Marsan. En revanche, les transformations vont quand même se faire sentir à partir notamment de la fin du XIe siècle et nous allons voir un petit peu comment cela va se faire. Alors, quand même, soyons honnêtes, il faut parler un petit peu des villages qui sont liés à des villas gallo-romaines qui étaient installées dans notre région. Ainsi, aujourd'hui, Sarbazan, Brocas-les-Forges, Pujaut, Saint-Cric, Saint-Pierre-du-Mont ont connu des établissements antiques qui étaient extrêmement importants et qui ont favorisé ensuite le développement d'un habitat sur les vestiges de ces grands domaines, habitat qui est demeuré en place. Ainsi, par exemple, le village de Pujaut est construit sur l'ancienne villa antique. On va retrouver des fragments de ces tuiles romaines qu'on appelle les tégoulets dans les murs de l'église d'aujourd'hui. Le monument aux morts, par exemple, est constitué par deux grandes colonnes antiques qui ont été récupérées quelque part dans les environs. Et c'est la même chose à Saint-Cric-Villeneuve. Bon, c'est un petit peu différent effectivement à Brocas, car la villa gallo-romaine s'étendait dans ce qui constitue aujourd'hui une grande partie de l'étang. Mais le village est né tout près. À Sarbazan également, l'ensemble du village s'est étendu sur le domaine antique. Et aujourd'hui, je pense que partout, si l'on fouille à l'intérieur des jardins, de temps en temps, on doit retrouver quand même quelques petits vestiges. Donc on a quelques villages et ensuite un habitat qui était certainement important, mais très éclaté. Très éclaté. Alors après, à partir essentiellement, on va dire peut-être au XIe siècle, on a bien sûr des villages qui vont peu à peu se développer liés à la présence de l'église. On n'a pas beaucoup d'éléments là-dessus, on ne peut pas en parler d'une manière extrêmement approfondie, mais c'est quand même l'église qui a fini par créer la paroisse et en général, au XIIIe siècle, ces paroisses sont donc construites. De nombreuses églises disparues ont par exemple constitué des paroisses qui aujourd'hui n'existent plus. Sur Saint-Justin, il y avait 5 paroisses. On avait, outre Saint-Justin qui a été créé en 1280 en tant que bastide, nous avions sinon Douzevielle par exemple, Gontaut, Saint-Martin de Noé, Arouille. Si je prends la commune d'Ufrèche aujourd'hui, le village est aussi une petite bastide, mais il y avait d'autres paroisses qui ont constitué l'ensemble de la commune d'Ufrèche, comme Goussy, Saint-Étienne d'Ufrèche, Saint-Laurent de Béris, moins importante, nous avons Basconce. Basconce, aujourd'hui, est formée de deux anciennes paroisses, la paroisse de Basconce, la paroisse de Bostens. Saint-Berdon est formée de deux paroisses, celle de Saint-Berdon et celle de Saint-Aurens. Et donc, autour de ces églises paroissiales, il y avait effectivement un certain nombre de maisons, mais elles n'étaient pas très nombreuses, parce que nous ne sommes pas, comme je le disais, dans un pays d'habitat. Nous ne sommes pas, comme je le disais, dans un pays d'habitat groupé. Et donc, finalement, les exploitations s'égrenaient dans la campagne environnante. À partir notamment du tout début du XIIe siècle, nous avons en Marsan l'apparition de sauvetés. Alors, qu'est-ce que c'est que les sauvetés ? Les sauvetés, ce sont des espaces d'asile qui ont été créés dans le cadre de la grande politique dite de la paix de Dieu, organisée par les diocèses à partir de la fin du XIe siècle et jusqu'au XIIe siècle. C'est l'Église, en effet, qui, au cours du XIe siècle, se rend compte que les seigneurs ne sont pas toujours capables de protéger leur population. Elle va donc essayer de faire le ménage. C'est-à-dire, elle va mettre de l'ordre dans les affaires des seigneurs laïcs, qui ne sont peut-être pas toujours très raisonnables. Alors, par exemple, l'Église, avec les évêques, a mis en place notamment des règlements de paix, c'est-à-dire interdiction de se battre ou de faire la guerre, notamment le samedi ou le dimanche. Interdiction de se battre au moment des fêtes pascales, fêtes de Noël et bien d'autres fêtes religieuses, et il y en avait énormément à cette époque. Elle va mettre en place aussi, de manière à faire appliquer ces règlements de paix, des milices de chevaliers qui sont aux ordres de l'évêque et qui vont aller rétablir l'ordre sur les territoires seigneuriaux lorsque les seigneurs n'étaient vraiment pas raisonnables. Et puis, elle a créé aussi des espaces d'asile. Ce sont les sauvetés. Sauvetés, Salvetta, par exemple, qui ont donné des noms de villes à travers toute la France. Sauvetaire de Guyenne, Sauvetaire de Béarn, La Salvetta. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on est sauf à l'intérieur d'un territoire qui va être délimité par des croix de sauveté. Alors, dans les Landes, nous en avons plusieurs. La plus connue et célèbre, c'est celle de Mimizan. Mais en Marsan, il y en a aussi. Il y a la sauveté de Bougue, qui est connue par plusieurs textes, mais je vous en parlerai une autre fois lorsque j'évoquerai la commune de Bougue et son histoire. Mais il y a aussi la sauveté de Beaussiette, avec sa magnifique église, et dont les croix de sauveté, elles, ont été conservées. Et peut-être, alors on ne sait pas si Uchac ou Parentis étaient des sauvetés, l'une ou l'autre en tout cas. Peut-être Luc Bardès, qui est signalé également comme sauveté dans un texte du XVIIe qui est dû à un clerc, donc à un religieux. Bon, mais on n'a pas d'autres preuves, on n'a aucun document qui en parle malheureusement. Donc, à l'intérieur de ces sauvetés, quand on se réfugiait, on était protégé. Les seigneurs n'avaient pas le droit de venir vous y chercher, on était donc à l'abri. Alors, certaines sauvetés, donc à l'intérieur de ces bornes, ont abrité de temps en temps des fugitifs, les personnes les plus faibles. Dans un certain nombre de cas, les sauvetés ont abouti à des villages ou à des petites villes relativement importantes, pensons notamment à Sauveterre de Guyenne ou à Sauveterre de Béarn. Bon, ce n'est pas forcément le cas en Marsan. Bougue n'a pas donné lieu effectivement à un village qui s'est développé énormément, mais il faut dire aussi que la sauveté a été créée au début du XIIe siècle et que la ville de Mont-de-Marsan a été fondée environ 20 ans plus tard. Que par conséquent, entre la ville de Mont-de-Marsan fondée 20 ans plus tard, puis ensuite Villeneuve qui va être fondée à la fin du XIIe siècle, bien Bougue, qui se trouve à mi-chemin entre les deux, effectivement avait peu de chances de se développer d'une façon importante. Voilà. C'est peut-être l'explication. Et Beaussiette est probablement dans le même cas que Bougue. L'époque de ces sauvetés, c'est essentiellement donc le XIIe siècle. Mais il y a également les bourgcastraux et les castelnaux. Alors, que sont les bourgcastraux ? Les bourgcastraux, ce sont les villes de Mont-de-Marsan et de Roquefort qui, elles, ont été créées par un seigneur puissant qui est le vicomte. Car seul, effectivement, un seigneur aussi puissant a la possibilité de bâtir une ville, car il a le pouvoir sur les hommes et il a les moyens matériels et financiers de le faire. Ce n'est pas le cas d'un petit seigneur. Alors, néanmoins, de nombreux petits villages sont nés des castelnaux, c'est-à-dire, castelnaux, c'est le château nouveau. Château nouveau, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un château neuf. Alors un seigneur va décider d'installer sa motte avec sa résidence et sa basse-cour à un endroit donné, et il va, dans certains cas, obliger la population à venir y habiter, la population sur laquelle il a effectivement droit de souveraineté. Mais dans certains cas, tout simplement, la population le fait tout simplement parce qu'il arrive à l'attirer avec un certain nombre de privilèges. Alors, nous n'avons pas de cas qui nous raconte l'installation de tel Castelnau en Marsan. Nous avons l'archéologie, en revanche, l'archéologie qui nous parle de très nombreux Castelnau, puisqu'il y a environ, je le disais tout à l'heure, pas loin d'une cinquantaine de mottes, dont certaines ont été des Castelnau. Et c'est à partir de ces Castelnau que les villages modernes sont nés. On a un exemple qui est celui d'Artassinx, le village d'Artassinx installé à côté du Castelnau qui se trouve derrière l'église par exemple. Castandé également, bien que ce soit un village éclaté, eh bien il y a encore aujourd'hui une motte installée dans une ferme qui est la motte de La Salle. Et je pourrais en citer pas mal d'autres encore. Bon voilà, eh bien je vous ai parlé du XIIIe siècle en Marsan, je n'ai pas fini, j'y reviendrai une autre fois. Et pour terminer cette émission consacrée au XIIIe siècle, je vous propose une chanson, mais alors une chanson médiévale anglaise cette fois, du XIIIe siècle, Bird on a Brier, c'est-à-dire en vieil anglais Bird on Brier, qui est interprétée par l'ensemble Belladonna, spécialisé dans la musique médiévale, et qui fait partie de son album Melodious Melancholy. Thank you.